corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Et nous allons faire, comme de coutume, une revue de presse autour de la psychiatrie. Bonjour André.
Oui, bonjour.
Alors, on va peut-être commencer par une notion qui est assez inhabituelle ces temps-ci, c'est la notion de déprescription. Déprescription en psychiatrie, d'après un article du Monde et un entretien avec la psychiatre Maëva Musso.
Oui, alors la docteure Maëva Musso, qui est une jeune psychiatre, on l'a connue, moi je l'ai connue quand elle était encore interne, avant de devenir psychiatre hospitalière. Elle bossait sur les Mureaux, dans le Val-de-Marne, qui est un établissement très très éloigné, hein, sectorisant des communes du Val-de-Marne comme Vincennes. Donc en fait, dans la mouvance du CCOMS, le Centre collaborateur Organisation mondiale de la santé sur Lille, qui facilite les projets novateurs, enfin les projets novateurs pour la France, hein. Pour la France, pas pour ailleurs, pas seulement pas pour des pays d'Europe du Nord. Donc elle a lancé deux initiatives. La première initiative, c'était l'Open Dialogue. Autrement dit, quand il y a une crise dans un milieu familial, réunir tout le monde et essayer quand même de faire parler librement les gens pour dénouer s'il y a lieu ou voir quel modus vivendi. Et d'autre part, la question de la déprescription en psychiatrie, alors qu'elle s'est aperçue, comme nous tous, qu'il n'y avait pas à ce jour de programme de désescalade de prise de médicaments psychiatriques en France, et pour cause. Il a toujours été envisagé dans la psychiatrie française, jusqu'à ces dernières années, jusqu'au plein pot de la désinstitutionnalisation, que lorsqu'un traitement psychiatrique est prescrit au départ, les traitements ne sont arrêtés que quand il y a le décès du patient. Ce qui est absolument scandaleux. C'est-à-dire, c'est cette politique selon laquelle les pathologies psychiatriques sont incurables et l'on fait avec. Et donc on fait avec des stades, etc. Donc en fait, c'est un enfermement dehors-dedans, dans le médicament, dans le diagnostic, dans le regard d'exclusion sociale, qui ne se termine jamais. Et ça fait que des gens se sont efforcés, au long des décennies passées, depuis les années 70, de faire des sevrages à la sauvage, sans être épaulés, sans en avoir les conseils, ou lorsque des conseils étaient émis, les conseils étaient émis dans l'ensemble par des gens non officiellement du corps médical. Alors je signale à cet effet que nous avons eu, à partir du groupe Information Asile, dès 2002, le réseau québécois Agile, son groupe de défense des personnes psychiatrisées, publiait un guide du sevrage des traitements psychiatriques, 2002, québécois en français. Donc, alors, finalement, elle est interrogée là-dessus par Le Monde, et elle défend que, elle, étant donné la désinstitutionnalisation, hein, parce qu'on est en plein dans les politiques de fermeture des lits de tous les côtés, hein, et que, très officiellement, les dépenses de santé mentale, c'est le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, et qu'on ne peut pas garder sous le tapis ces questions. Donc elle a ouvert à Paris une consultation spécialisée dans l'optimisation médicamenteuse des troubles psychiques. Alors, vous avez d'un côté l'optimisation fiscale, notamment pour les firmes pharmaceutiques et ceux qui en touchent les dividendes. Mmh. Et les pauvres malades, eux, sont conviés quand même à titre expérimental pour une première consultation à faire de l'optimisation médicamenteuse. Bon, on espère que la docteure Musso aura un très vif succès. D'autant plus que là, elle a été prise très à son avantage dans la photo du Monde. Donc, ça devrait aider pour la patientèle, je pense. Alors, donc, elle rappelle dans son entretien au Monde l'importance dans l'accompagnement thérapeutique, dans le sevrage, et déplore la rareté en France de l'accompagnement afin de déprescription. Moi, ma thèse, j'ai mis un commentaire sur Le Monde là-dessus, c'est que, d'abord, elle peut officiellement défendre cela parce qu'on est au paroxysme de la désinstitutionnalisation qui a commencé il y a 35 ans à peu près. Hein. On est passé en 89-90, il y avait 120 000 lits de psychiatrie, on est passé à 55 000 lits à peu près. Et maintenant, on se pose même la question depuis quelques années de rouvrir des lits, et des lits sécuritaires hein, d'ailleurs. Donc elle peut d'autant plus parce que ce contexte est là, et d'autre part, raisonnablement, ils sont obligés, ces dernières années, d'entendre les doléances des patients et des familles en disant les dosages, les effets secondaires, ça suffit, on doit pouvoir en sortir, on doit pouvoir se sevrer. Bien. Parce que quand même, dans l'ensemble, les jeunes générations, comme je dis souvent, et comme disait Philippe Bernardet d'ailleurs, dans les jeunes générations, on passe des stupéfiants aux psychotropes légaux. C'est incontestable. Enfin, des stupéfiants et de l'alcool aussi, et des cocktails. Bon. Donc, cette interview présente donc un certain intérêt. Alors, il est bien entendu qu'il y a une inégalité très puissante, c'est ce que j'ai mis dans mon commentaire, entre des gens qui bénéficient d'une inclusion dans un groupe de soutien qui peut les entourer durant le sevrage, et des autres qui ne bénéficient pas de cela. C'est très différent, parce que des gens qui vont faire un sevrage à la sauvage, sans accompagnement, auront toute chance de, non pas de rechuter, c'est-à-dire que les symptômes qui étaient abrasés par le médicament ressurgissent d'autant plus fort, et c'est finalement un effet de sevrage. Mais l'effet de sevrage au plan psychiatrique, au plan social, est considéré comme une rechute dans la maladie. Or, on devrait, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, on devrait non pas considérer qu'il s'agit d'une rechute dans la maladie, mais d'un effet de sevrage, et traiter l'effet de sevrage. Mais bon, alors, là-dessus, j'ai regardé les commentaires hein, qui étaient bien. Majoritairement, les commentateurs sur Le Monde disaient « Oh, ben oui, c'est très bien, ça va faciliter des passages aux actes criminels. » Parce que les gens font l'amalgame, trouble bipolaire, schizophrénie, dangerosité. Et comme les grands faits divers avec des toxicomanes complètement tapés, Kabylie Traoré, le meurtre de Sarah Halimi, etc., etc., ce sont des personnes médico-légales, hein, à profil psychiatrique et de toxicomanie très, très importante. Les gens font le rapprochement par réflexe. C'est un rapprochement réflexe. Aussi bien que la large masse des patients passe à l'AS. La large masse des patients, par le très grand nombre des patients, se voient stigmatisés et enfermés là-dedans à cause de cela. Donc, alors, cet article, alors d'abord, elle a consacré sa thèse à cela. Alors, elle dit à un moment donné, pourquoi vous y êtes-vous intéressé dès votre thèse ? Alors, elle défend très précisément, car des usagers manifestaient leur souhait d'arrêter leur traitement sans que je puisse y répondre correctement. Pourtant, dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai retrouvé des mentions d'arrêt de traitement en psychiatrie par Philippe Pinel, 1745-1826, un aliéniste, ancêtre du mot français. Le premier article scientifique décrivant le syndrome de Sevrage a plus de 40 ans. Et la communauté internationale en parle depuis une vingtaine d'années. En 2019, j'ai été rencontrer des équipes qui s'étaient penchées sur la question dans 6 pays différents. En Norvège, l'accueil a été généreux, avec une envie forte de répandre la pratique. J'ai découvert un accompagnement pluridisciplinaire en Norvège, avec des infirmiers, des médiateurs de santé, des psychologues. On prend aussi très au sérieux le soutien social dont bénéficie ou non la personne. Donc bon, elle ouvre ses consultations. Bien. Alors aujourd'hui, certaines parutions des publications soulignent des risques de rechute avoisinant les 60% en cas d'arrêt de traitement pour lutter contre la dépression, par exemple. Mais là encore, c'est la confusion qui règne entre le syndrome de Sevrage et la rechute de la maladie.
C'est la question du journaliste.
C'est des questions aux journalistes et les réponses viennent. Alors, elle prône qu'au niveau de la pharmacie, il y a des traitements avec des boîtiers spécifiques qui permettent une diminution des dosages. C'est ce qu'elle appelle, alors ça c'est la clinique, c'est le terme de, je n'ai pas noté ça, il y a un terme en anglais. Bon bref, c'est un boîtier de médicaments avec une baisse de dosage graduelle. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, par ailleurs, on a, ces temps-ci, il y a eu deux décisions de la Cour de cassation en matière d'unité pour maladies difficiles qui valent le détour.
Oui, c'est donc, à l'initiative du préfet du Tarn, un patient, enfin une personne, a été mise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un représentant de l'État, donc, le 31 mai 2023. Le 6 juin 2023, il a été maintenu en hospitalisation complète. Le 25 septembre 2023, transféré à l'UMD. Le 10 novembre 2023, saisine du JLD par le préfet pour poursuivre la mesure de soins sans consentement. Et donc, à cette cour de cassation du 19 mars 2025, M. I, on l'appelle comme ça, fait grief à l'ordonnance de la cour d'appel de l'avoir maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète, alors qu'il n'a pas eu les informations requises concernant son transfert à l'UMD. Quant à sa situation, ses droits et les règles de procédure applicables, ce qui constitue une atteinte à ses droits et libertés fondamentales, même si on lui oppose que ce transfert est dans la droite continuité de la mesure d'hospitalisation complète et ne génère pas de changement de cadre juridique.
Et non seulement cela. C'est-à-dire que le magistrat, enfin, puisque c'est un pourvoi à partir d'une ordonnance de rejet, de cour d'appel, le magistrat a constaté que l'état clinique de la personne décrit dans les certificats médicaux apparemment justifiait le transfert en unité pour maladie difficile. Bon. Et donc, alors, ce que dit la Cour de cassation, puisqu'elle reste, sur une jurisprudence constante, à savoir que les irrégularités ne portent grief. Enfin, ne sont considérés comme portant grief et devant entraîner une conséquence en termes de libération que si, sur la base des irrégularités, l'on prouve une atteinte aux droits de la personne. Donc, que si l'on prouve que spécifiquement, non seulement l'irrégularité de droit est en place, mais qu'en prime, cette irrégularité plus le contexte général, il y a une atteinte à la personne, à ses droits, et donc à ce moment-là, on peut en tirer une conséquence au plan de la libération. Et ce que dit, ça c'est le rejet habituel, donc prouvez-nous d'abord qu'il y a une atteinte spécifique aux droits de la personne pour qu'on puisse faire droit aux moyens que vous soulevez sur le grief juridique. Et d'autre part, et c'est là que cet arrêt, cette décision de la Cour de cassation est très importante, c'est qu'elle dit que il y a une distinction à faire entre les irrégularités d'un transfert ou d'un maintien en unité pour malade difficile qui, si l'on prouve une atteinte au droit de la personne, peuvent entraîner une main levée, mais une main levée de l'admission ou du maintien en UMD, une main levée de la mesure elle-même, qui est la mesure de départ que vous avez subie dans un hôpital, et dans cet hôpital, on a jugé que votre comportement nécessitait le transfert en UMD. Donc, ce faisant, la Cour de cassation continue à développer un chapitre dans le chapitre du contentieux de l'internement psychiatrique. Bien. Autrement dit, vous avez une mesure d'ensemble, on prend contre vous une mesure de soins, décision du représentant de l'État ou péridiminant, etc. Bien. Dans le cadre de cette mesure, il y a une autre mesure qui est prise sur vous d'isolement contention. Il y a un contentieux spécifique là-dessus sur l'isolement contention. Si votre mise sous isolement, par exemple, est irrégulière, on donne la main levée, que vous pouvez prouver une atteinte au droit de la personne, on donne main levée de la mesure d'isolement sans donner main levée de la mesure d'ensemble. Donc, l'isolement ou la contention élevée, bon, d'accord, mais vous restez dans la mesure de base. Et pour le transfert en UMD, c'est pareil. Si l'irrégularité qui affecte votre transfert en UMD ou votre maintien au bout d'un certain nombre de mois est patente, réglée, eh bien, que la défense prouve une atteinte aux droits de la personne, alors le magistrat peut donner levée du maintien ou de l'admission en unité pour malade difficile, auquel cas vous réincorporez votre hôpital de base, mais vous restez sous la mesure de base. Donc il y a un chapitre dans le chapitre, une privation de liberté dans la privation de liberté. Alors ce faisant, qu'est-ce que ça fait? Ça va contre un principe de droit des libertés individuelles qui était auparavant en place et qui a été ratiboisé par la Cour de cassation depuis 2019 d'ailleurs. C'est-à-dire il y a une décision de la Cour de cassation qui a considéré que à l'époque, avant les décisions QPC qui ont permis la judiciarisation du maintien en isolement contention, on ne pouvait pas se pourvoir comme ça devant un JLD. Après que les réformes soient passées sur la judiciarisation des maintiens en isolement contention, là, la Cour de cassation a pris une série de décisions, créant un contentieux spécifique dans le contentieux spécifique. Un droit spécial dans le droit spécial. Alors, ce que ça veut dire, ça contrevient à un principe de droit des libertés individuelles, de base, qui veut que lorsque vous êtes placé sous main de justice, sous main privative de liberté, qu'on vous prive de liberté, si la dite privation de liberté est irrégulière, au bout d'un sens, cela contamine l'ensemble de la mesure et on doit vous libérer pour stopper la contamination. La contamination d'une irrégularité et l'autre. Oui. C'est-à-dire que si on prend une décision par laquelle on admet une personne dans un hôpital psychiatrique sous contrainte, et que dès l'admission, la procédure est irrégulière. On continue l'internement 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis même on vous transfère en UMD en changeant de régime, l'irrégularité de base contamine l'ensemble.
Oui.
Et pour stopper cette irrégularité en chaîne, cet effet de cascade négative de violations qui se rajoutent les unes aux autres, alors la solution la plus simple est de libérer purement et simplement la personne. Et si on veut, et si on a des motifs pour la réadmettre, on la réadmet. On refait une nouvelle mesure. Et donc, ce faisant, ils ont coupé court à cette problématique de la contamination des irrégularités.
En établissant des modules, des boîtes, une boîte dans la boîte, quoi.
C'est ça. En saucissonnant, en quelque sorte. Mmh, ouais. Voilà. Bon.
Alors oui, d'ailleurs, le rejet du pourvoi en cassation de M. I, le motif, c'est son comportement hétéro-agressif envers les soignants, caractérisant un risque pour la sûreté des personnes.
Oui, c'est-à-dire que les motifs, c'est-à-dire le magistrat a considéré que les motifs qu'on lui disait dans les certificats étaient réels et sérieux pour l'admettre en UMD. Mmh. Comme en plus, les magistrats judiciaires dans le contrôle des mesures de soins sans consentement n'ont plus la latitude de critiquer les avis médicaux, ils ne peuvent plus substituer leur avis aux avis et certificats médicaux. Donc, dans la chaîne des décisions très, très, très novatrices que Maître Hélène Leca a obtenues dans l'affaire Romain Dupuis, elle a obtenu une décision de la Cour de cassation du 9 avril 2025, alors, où elle dit que dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, cette décision va être mentionnée au rapport annuel de la Cour de casse, ce qui souligne son importance. Bon, donc, la Cour de cassation a fait droit aux moyens qu'elle avait développés avec son confrère Maître Spinozzi, en tirant les conséquences de la décision du tribunal des conflits du 3 juillet 2023 qui avait conféré au juge judiciaire la compétence pour décider du maintien ou de la mainlevée de la mesure du placement en UMD. Et singulièrement, en fait, le tribunal des conflits, on avait déjà discuté, avant on ne savait pas devant quel juge on devait aller lorsque on contestait un transfert en UMD. Et surtout, on ne savait pas devant quel juge aller lorsque l'on disait que la défense disait « Nous ne demandons pas spécifiquement la levée de la mesure, nous demandons que le juge autorise le transfert d'un patient tenu en UMD et que les autorités ne veulent pas faire sortir de l'UMD ben, un hôpital classique. Mmh. » Donc cette question du transfert a prêté lieu à un balai entre les deux ordres de juridiction administrative se déclarant compétentes, judiciaires se déclarant incompétentes, jusqu'à ce que le tribunal des conflits statue en disant non, le tribunal des conflits a augmenté le bloc de compétences du juge judiciaire en la matière, bien, en disant tout ce qui est du ressort de l'admission, du maintien et du transfert en unité pour maladie difficile est de la compétence du juge judiciaire. Et là-dessus, Maître Hélène Leca avait pu obtenir le transfert sur la base de cette décision par la Cour d'appel de la Cour d'appel de Toulouse, levant la mainlevée du patient M. Romain Dupuis en UMD, en laissant toute latitude et en ouvrant la voie pour qu'il y ait désignation d'un établissement psychiatrique classique pour qu'il continue de rester en mesure de soins des soins du représentant de l'État, puisqu'il y a eu un crime grave, le crime de Pau 2004, etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Cour de cassation, en fait, casse avec renvoi une ordonnance d'avant de la Cour d'appel de Bordeaux, d'avant la décision du tribunal des conflits d'orientation de ce contentieux du mois de juillet 2023. Cette ordonnance, c'est du décembre 2022, et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux. Mais la Cour d'appel de Bordeaux a déjà statué, donc il y aura un non-lieu. Parce que la Cour d'appel de Bordeaux a statué sur le mainlevé du maintien en UMD de M. Dupuis. La préfecture et l'hôpital lui ont attribué un autre hôpital. Bon, donc ça, c'est très intéressant. Et l'on voit que malgré tout, là où les unités pour malades difficiles, c'était quand même une zone de non-droit, une zone grise, où on ne savait pas tellement comment s'y prendre, ou même le droit n'entrait pas des masses hein, là-dedans. Il y a eu très peu... Maître Meillet a fait un travail novateur et on a eu des éclaircissements, pour l'essentiel, sur la flopée de contentieux sur Claude Baudouin. Sur l'affaire de Claude Baudouin, qui est mort en UMD, qui a fait 30 ans, une unité pour maladie difficile. Bon, mais pour l'essentiel, non. Donc on voit là que, contradictoirement à ce qu'on pouvait penser, que M. Domain Dupuis, monstre social, c'était foutu, etc. Ben écoutez, puisque dans une affaire comme celle-là, dans laquelle il y a eu quand même... il a fait quelques efforts, hein, ce patient. Puisque finalement c'est une perpétuité, ben écoutez, on va faire du droit. Ça meublera la perpétuité. Hein, quand même, puis ça fera du droit pour à peu près tout le monde, quand même, parce que c'est quand même intéressant. Donc, des fois, il y a des patients qui ont commis des actes très graves, vraiment très grave et que la santé ne laisse pas sortir, d'accord. Mais aux dernières nouvelles, ces patients, si médico-légaux qu'ils soient, ont droit au droit.
Tout à fait, bon. Alors on passe maintenant à Marseille où un psychiatre, Marc Adida, a été condamné à 12 ans de prison pour des viols sur 3 de ses patientes et pour une agression sexuelle sur une autre d'entre elles. Voilà.
Marc Adida. Alors moi, j'avais entendu parler de cette affaire, mais un peu souterrainement par le réseau marseillais, surtout à travers le chef de pôle, Christophe Lançon, très fondamental, etc., etc. Bon, j'étais quand même au courant qu'à Marseille, on fait des choses novatrices, probablement, je ne dis pas que c'est certain, parce que Marseille, c'est une zone de non-droit. Bon, vraiment, c'est... Mais bon, il y a des fois où dans une capitale de du trafic de stupes et de la toxicomanie en France, il faut bien faire quelque chose par rapport à tout cela. Donc, il y a un article de Nice Presse qui reprend cette affaire. Et je pense que je vais en donner lecture. Le psychiatre accusé de multiples viols, la cour criminelle met au jour 10 ans d'alerte, restée lettre morte. Au procès du psychiatre hospitalier Marc Adida, jugé pour viol et agression sexuelle sur 4 patientes, la cour criminelle des Bouches-du-Rhône a examiné en détail mardi une décennie d'alerte restée lettre morte au sein de l'APHP, enfin non pas l'APHP, l'APHM, l'assistance publique hôpital de Marseille. Décrit par un avocat des parties civiles comme un lanceur d'alerte, le professeur Christophe Lançon, qui était le supérieur hiérarchique de ce psychiatre, très lié à fondamental, a relaté devant la cour d'Aix-en-Provence les étapes d'une véritable chronique d'un scandale prévisible. En mars 2013, le docteur Adida se rebelle violemment. Attends voir, parce qu'il avait déjà été mis en cause. Se rebelle violemment en 2013 contre les gendarmes venus à son domicile après un épisode maniaque au cours duquel il tente d'étrangler son épouse. À quoi ça sert d'avoir une épouse, là, franchement? Moi, je regarde ça, moi qui suis un éternel célibataire. Mais pourquoi, si c'est pour ça, ben vraiment, on se demande, mais à quoi ça... Enfin, franchement, tu vois. Toutefois, après 3 mois d'hospitalisation sous contrainte, il avait été interné sous contrainte, le docteur Marc Adida, il est considéré comme apte à reprendre son activité médicale sans autre condition qu'une nouvelle expertise 1 an plus tard. D'accord. On lui confie alors la partie la plus complexe et la plus difficile de la psychiatrie marseillaise, s'étonne le professeur Lançon à la barre, le service addiction. Entre les 2 médecins, parce que Christophe Lançon, c'est le service addiction. Entre les 2 médecins, le climat se dégrade rapidement. Le docteur Adida allant jusqu'à accuser son confrère d'être l'amant de son épouse et le père de sa fille. Bon, ça, c'est leur magouille. Ça, c'est leur magouille entre eux, parce que on sait que bon. Alors d'autres collègues. Excusez-moi.
Bon, on dirait que c'est des choses qui ne sont pas avérées.
Ouais. Bon, enfin bon. Ah ben, moi, c'est pas, je lis d'articles de presse, moi, oui. Vous permettez. D'autres collègues avaient peur de M. Adida. En 2013-2014, témoigne Christophe Lançon, je suis allé voir 20 fois les responsables de cette institution, la PHM, l'Assistance publique hôpital de Marseille, pour leur dire que les patients, les personnels, ma famille et moi-même étions en danger. Témoigne Christophe Lançon, qui a partagé 14 années de travail avec son confrère diagnostiqué bipolaire. En décembre, lui-même, le docteur Lançon, se réclame bipolaire. Bon. En décembre 2014, il donne l'alerte en adressant un courrier à Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, ainsi qu'au directeur de la PHM et au procureur de la République. Il dénonce des situations d'emprise sur des patients et des prescriptions excessives d'un dérivé d'amphétamine à destination des étudiants avec des posologies atteignant près de 3 fois la dose maximale autorisée, c'est Ritaline et compagnie. Je savais que cette affaire allait mal tourner, confie-t-il. Pour lui, au-delà des troubles bipolaires, le docteur Adida souffre de conduites addictives, non pas permanentes mais massives, notamment aux médicaments, aux stupéfiants et à l'alcool. En 2016, une patiente révèle à Christophe Lançon que le docteur Adida la viole lors des consultations et a même tenté de l'étouffer pour la tuer. Une fois de plus, en 2016, bon. Une fois de plus, celui qui se définit comme le pestiféré de l'institution affirme avoir alerté toutes les personnes en responsabilité. Cependant, la rétractation de la victime qui avait d'abord porté plainte entraîne un classement sans suite de l'affaire par le parquet et conduit à la levée de la suspension du docteur Adida, qui avait été quand même suspendu. Il est alors affecté au service du professeur Jean Naudin, ce même collègue qui, en 2013, avait validé son hospitalisation sous contrainte. D'accord ? Enfin, c'est hallucinant de voir ça, hein. Alors, ce chef de service explique avoir organisé une surveillance de son collègue en demandant aux secrétaires et aux agents de sécurité de redoubler de vigilance. N'est-ce pas prendre un risque inconsidéré, connaissant les oscillations de l'état de M. Marc Adida entre phase exaltée et phase déprimée ? Interroge le président de la Cour, Roger Arata. Jean Naudin admet alors à la barre « J'ai été présomptueux de croire que j'allais maîtriser les choses ». Mais en le jugeant à nouveau apte à exercer la médecine, une expertise réalisée par trois médecins désignés par le Conseil de l'Ordre a servi de caution. Ancien chef de pôle de psychiatrie à la PHM, le professeur Jean-Claude Samuel-Lyon confesse son impuissance. Sur l'histoire du viol, on était très embêtés, mais à partir du moment où la plainte est classée sans suite, on ne pouvait rien faire. Avec l'ouverture de ce procès, nous avons reçu des courriers de personnes se disant victimes, souligne le président Arata, suggérant ainsi un phénomène ancien et plus vaste. Ce qui apparaît là, c'est que la parole des patientes victimes de viol n'a pas de poids. Tout simplement, et qu'on laisse faire dans l'impunité. Alors ça, c'est la deuxième condamnation publique aux assises. La première condamnation, c'était Alain Pidol, dans l'Est de la France, enfin 2013, confirmé en 2018. Donc on voit là des situations aberrantes et totalement coutumières.
C'est totalement coutumier. Oui. C'est étonnant que... il poursuit sa carrière pendant 10 ans, ponctuée de viols, d'agressions, de comportements délirants, sans que la direction de la PHM ou l'Ordre des médecins ou l'Agence régionale de santé ne mettent un terme à ses agissements.
Ah mais tout à fait. Alors là-dessus, puisqu'il est question des ARS, j'ai reçu l'autre jour d'Hospice Média, comme tous les abonnés, une demande en disant « Bon, votre temps est précieux, nous faisons des dossiers très documentés, notamment un dossier sur les ARS. » Alors je me suis fendu d'un message pour leur donner mon sentiment. Alors, j'ai essayé de libeller correct mon message par d'insultes, de slogans échevelés et machin. Donc, je réponds pour la rédaction de Spi Média et la rédactrice en chef, Mme Pia Emery, à propos du dossier de Spi Média sur les 15 ans des ARS. Puisque les ARS, c'est la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire de juillet 2009 et c'est rentré à effet la fin 2009. Et les agences régionales de santé ont été regroupées par le législateur, les DAS, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les DRAS. Et auparavant, il faut savoir que les DAS opéraient sous couvert des préfectures. Donc en fait, on a regroupé dans les anciennes ARH, Agence régionale de l'hospitalisation de 96, on a regroupé le secteur sanitaire et social en retirant de la couverture des préfectures, en augmentant le périmètre des agences régionales de l'hospitalisation devenues ARS. Donc les ARS ont remplacé les... ARH, Agence régionale hospitalière des ordonnances de 1996 du Premier ministre Alain Juppé, et englober les anciennes fonctions des DAS et des DRAS, direction régionale. En matière de maltraitance, dans les institutions sanitaires in situ ou en périphérie, les agences régionales de santé ont repris cette compétence des DAS, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la gestion et du traitement des signalements de faits de maltraitance. Or, il est de notoriété publique que quelques faits graves que l'on signale aux ARS, comme antérieurement aux DAS, ces signalements sont enterrés, étouffés, et s'ils proviennent de personnes qui sont elles-mêmes usagères ou parentes d'usagers des services de santé, les risques de représailles sont encourus. Externement de la personne placée, par exemple. Il n'y a rien de mieux sur une famille qui se plaint. Vous vous plaignez de mauvais traitements le directeur la convoque la mère de famille en disant « Je signe immédiatement, je fais venir un psychiatre de garde, votre parent est sortant. » C'est tout. Et vous débrouillez avec. Et là, tout le monde se tait. C'est effrayant. Hein. Donc alors, si ces signalements proviennent de professionnels, ces signalements sont renvoyés à l'autorité hiérarchique de ces professionnels de santé, afin, suppose-t-on, de demander des comptes à cette autorité hiérarchique, mais aussi, in fine, de recommander à cette voie hiérarchique de sévir sur les subordonnés qui ont osé se manifester. Bon. Un système kafkaïen est ainsi en place et consolidé. Pour prendre un exemple, puisque les questions de violences sexuelles et de viols sont à la mode, ce qui permet d'ailleurs de mettre de côté, de scotomiser d'autres faits qualifiables de crimes institutionnels, par exemple des gens qui sont butés dans les services, hein, tout simplement, une personne victime de viol dans une institution ou témoin d'un viol se met en rapport avec l'ARS départementale et dénonce ce qu'il s'est passé. Dans l'hypothèse où cette personne est elle-même usagère des services de santé, particulièrement si elle est ou a été psychiatrisée, le risque est encouru que cette personne soit convoquée en vue d'une expertise psychiatrique sur indication de l'ARS, afin plus précisément qu'elle reprenne ses soins avec de préférence une hausse de traitement. Bon, c'est là. Ah oui, j'ai vu, oui, madame Attel, oui. Vous prenez plus votre traitement, je crois. Voilà. Bon. Alors, dans l'hypothèse où il s'agit d'une famille n'ayant pas le soutien de la direction de l'UNAFAM départementale, l'absence de réponse sera un moindre risque. Mais une réponse dilatoire ou évasive, et évasive, sera de mise avec un renvoi à l'association de famille locale, qui n'en fout pas une, et qui est intéressée au système, et qui, naturellement se faisant, remplit parfaitement son rôle. Aussi, personnellement, et pour assumer quelques responsabilités sur le terrain psychiatrique depuis pas mal de temps, je dois proclamer haut et fort, urbi et orbi, que je ne peux qu'être entièrement satisfait du service rendu par les ARS depuis qu'elles ont été mises sur pied et qu'elles centralisent les anciennes fonctions des DAS. Je pense que cette entière satisfaction me semble tout à fait partagée par le contrôle général des lieux de privation de liberté. Ainsi, par exemple, Mme Adeline Hazan, lors d'une conférence sur les violations de droits dans les institutions psychiatriques et plus précisément sur les pratiques pour le moins problématiques d'isolement contention, pouvait dire lors d'un colloque de 2017 que la saisine des ARS en matière de maltraitance est magnifiquement inopérante. La saisir, les saisir, revient à envoyer des missives sur des faits graves qui n'atteignent pratiquement jamais un interlocuteur pertinent, à moins qu'un service de cette ARS vous indique de saisir le procureur de la République, celui-ci ayant le pouvoir de vous faire convoquer en police judiciaire pour une audition préliminaire et de commettre tel psychiatre expert pour vous faire taire. Utilisation combinée de l'article 122.1 du Code pénal, expertise psychiatrique et responsabilité, et de la notion de déficience mentale. Il est précisé à cet endroit, et pour conclure, que les ARS sous-traitent par décret pour les préfectures, les dossiers de mesures de soins sur décision du représentant de l'État en ancienne hospitalisation d'office, les arrêtés de maintien en soins sur décision du représentant de l'État sont préparés par un service des ARS et signés par le délégataire du préfet. On comprend mieux, quand on est au courant de cela, ce qui se passe lorsque des viols sont dénoncés dans des services de psychiatrie. C'est étouffé.
Alors, deux propositions de loi à partir de loi fin de vie. L'une, c'est l'aide active à mourir, l'autre sur les soins palliatifs. Un article du Monde. La proposition de loi sur les soins palliatifs, portée par Annie Vidal, est globalement consensuelle et devrait être adoptée sans difficulté. Les controverses se concentreront probablement sur la seconde, déposée par Olivier Falorni. Elle légalise le suicide assisté et, dans certains cas, l'euthanasie avec de strictes conditions.
Oui, alors, plus exactement, les deux PPL, et pour celles qui nous intéressent, la proposition de loi, une PPL, c'est une proposition de loi, c'est-à-dire c'est une initiative parlementaire.
Parlementaire.
Alors, c'est par opposition à un projet de loi. Un projet de loi, c'est une initiative gouvernementale. Et les projets de loi sont obligatoirement accompagnés d'une étude d'impact. Donc, le projet de loi sur l'aide à mourir de 2024 a été impacté par la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024. Et donc, ça s'est arrêté en cours d'adoption, à savoir que l'essentiel avait été adopté. Donc, la proposition de loi d'Olivier Falorni, député socialiste au Modem, je crois maintenant, des Deux-Sèvres, et donc a donc repris la question de l'euthanasie telle que ça avait été stoppée par la dissolution au 9 juin. Et donc, c'est la commission des affaires sociales qui a débuté cet examen de loi, de proposition de loi, et qui l'a adopté le 11 avril, et qui l'a adopté. Hein, c'est ça le problème, qui l'a adopté. Et donc, il va y avoir un vote de principe à l'Assemblée nationale, c'est avant navette au Sénat quand même. Le Sénat, ça va se passer comme ça. Je crois que c'est le 19 mai. Le 19 mai, il va y avoir un vote solennel à l'Assemblée nationale. Alors, alors, ils ont mis des critères cumulatifs, de type avoir 18 ans, de nationalité française, avoir une atteinte... alors, justement, c'est là où ça pose problème. Une atteinte très grave, somatique ou psychologique. Et là, c'est où le « où » pose problème. Hein, une atteinte très grave, et là, c'est le problème, à un stade terminal ou à un stade avancé. Hein. Alors, il faudrait reprendre exactement le texte, mais ça, là, il y a un problème. Il y a un problème dans le fait que l'on mette atteinte, une atteinte somatique ou psychologique, et par ailleurs, parce que, bon, je veux dire, et par ailleurs, sur la question du stade terminal, c'est-à-dire pronostic vital engagé ou stade avancé, voilà, il y a une vraie discussion. Alors, le fait que l'on puisse combiner la pathologie somatique, enfin, pardon, je m'excuse, je m'excuse mal, le fait que l'on ne combine pas la pathologie somatique et la pathologie psychiatrique, que l'on sépare les deux, laisse la porte ouverte à ce que des patients développant à un stade grave une pathologie psychiatrique seulement puissent demander la sortie. Si l'on considère qu'il n'y a même pas le pronostic vital d'engagé. Alors là-dessus, vraiment, ça laisse perplexe. Donc reprenons alors un peu cela. Alors, des amendements ont été adoptés lors des quelques heures de débat, dont un porté par le groupe La France Insoumise, qui permet aux patients de choisir entre un suicide assisté ou une euthanasie pratiquée par un médecin ou un infirmier. Le suicide assisté, ça veut dire que c'est vous qui vous administrez la substance létale. Ou l'euthanasie pratiquée par un médecin ou un infirmier, là-dessus, le corps médical et paramédical, là, ça rue dans les bons carrés. Il y a la question de la clause de conscience, hein, quand même. Alors, le texte initial déposé par Olivier Falorni, Modem, prévoyait, comme le projet de loi ajourné du gouvernement en 2024, uniquement une euthanasie dans les cas exceptionnels où le patient n'était pas en mesure de réaliser l'acte. Cette exception avait été préconisée notamment par le Comité consultatif national d'éthique dans son avis qui avait ouvert la voie à une évolution de la législation. Alors, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une euthanasie, dans les cas les plus graves. L'amendement a reçu un avis de sagesse du rapporteur, Olivier Falorni. Le patient qui réunit les conditions cumulatives d'accès peut librement demander au professionnel de santé présent de réaliser l'acte d'administration à sa place. Lequel soignant peut opposer sa clause de conscience. Alors, avoir le choix consacre le libre arbitre de la personne éligible jusqu'au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal, rassure les personnes vivantes dans des situations déjà très difficiles et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrance pour soi-même et pour l'entourage, explique les députés signataires de l'amendement. Le débat en séance publique au cours de la séance du 19 mai permettra d'acter ou non le choix entre euthanasie et suicide assisté. Et encore, là, ils n'en viennent pas à l'essentiel de cette question. Alors, Hospimedia, dans une dépêche du 16 avril, indique que les enseignants de médecine et de pharmacie ne veulent pas apprendre à donner la mort. Donc, ces professeurs des universités, praticiens hospitaliers, professeurs associés ou encore maîtres de conférences, praticiens hospitaliers, s'inquiètent de la remise de l'agenda politique d'une loi sur la fin de vie. Nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une telle loi. Les enseignants de rappeler qu'une de leurs missions est de présider des soutenances de thèse. Dans ce cadre, le nouveau docteur en médecine prête le serment d'Hippocrate qui contient les deux phrases suivantes. « Je ne prolongerai pas abusivement les agonies ». Ce qui signifie qu'on doit éviter tout un acharnement thérapeutique. et je ne donnerai jamais la mort délibérément, ce qui n'est pas compatible avec les termes de la loi en projet, détaille-t-il, reconnaissant que l'espace entre ces deux obligations est tenu. Le médecin doit prendre en charge la douleur au maximum des possibilités de l'arsenal thérapeutique, dire la vérité au patient, mais de façon adaptée à son état, et s'il le faut progressivement, et ne pas abolir tout espoir pour le patient tant que celui-ci a besoin d'en garder. Pour les étudiants en pharmacie, le serment de Galien prévoit de la même manière qu'en aucun cas je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour favoriser des actes criminels. Alors, par ailleurs, il y a une tribune dans le dernier numéro de l'information psychiatrique, la revue du syndicat des psychiatres des hôpitaux, l'ancien syndicat unique des psychiatres hospitaliers, de Cécile Hénon, qui est psychiatre à l'hôpital Corentin-Selton, dont le titre est explicite « Vivre et laisser mourir est permis de tuer ». C'est un permis de tuer.
Ah oui.
Alors, ce qui pose problème, c'est non pas en l'état actuel des choses que l'euthanasie soit légalisée. C'est pas ça. Bon, si des gens... avec un consentement libre et éclairé. Voilà, c'est la question de la capacité, à donner des indications, à choisir son choix, à choisir sa vie, à choisir son chemin. Veulent sortir dignement, la question n'est pas là. La question, c'est que il y a plusieurs questions qui se posent. La question, c'est que l'on ouvre cette possibilité à des personnes qui, d'abord, n'ont pas la capacité de discernement en principe, ne peuvent pas consentir valablement aux soins, et à qui sont considérées comme des déchets de la société. Parce que le regard social qui est porté aux chroniques psychiatriques, c'est de considérer ces personnes comme des déchets, comme des dégénérés, comme des gens dont la vie n'a pas de sens, et dont on peut abréger de l'extérieur, dont on peut décider de l'extérieur d'abréger leur existence parce qu'ils souffrent trop, etc., etc. Sans se donner les moyens, pour de bon, d'humaniser les structures, d'humaniser leur sort, et de développer des accompagnements en conséquence. C'est trop facile. Et d'autre part, il y a un problème économique, un problème purement et simplement économique. Vous avez des régions et des publics qui pourront opter pour des soins palliatifs parce que c'est développé ou parce qu'ils ont de quoi les payer, et des autres pas. Et comme par hasard, ça va être les plus pauvres. Je renvoie à Soleil Vert, un film d'anticipation qui avait été publié dans les années 80 et qui décrivait cela.
Oui, avec des scènes où le mourant était allongé dans une grande pièce avec des images de la nature, des images très belles, avec une musique douce, etc. Un autre sujet, le coffre de Lille fait l'objet d'un programme d'expérimentation. Des recherches font évaluer la coformation au rétablissement, en vue d'une généralisation.
Voilà. Alors là, comme par hasard et comme d'habitude, les programmes prétendument novateurs en matière de psychiatrie développés à partir du centre collaborateur OMS pour la déstigmatisation, pour les droits des patients, pour le rétablissement, sont des programmes purement expérimentaux. Hein. On lance une phase de démarrage, on octroie quelques crédits, puis on voit si ça marche, bien sûr, dans le sens institutionnel. Et si ça marche, on va envoyer une équipe de chercheurs de l'AFIRA, en l'espèce, avec l'espèce, c'est la Fondation internationale de la recherche appliquée, l'AFIRA, qui est financée sur des fonds de la CNSA, Caisse nationale de solidarité et autonomie, laquelle CNSA, c'est un budget de l'ONDAM, du budget de la sécurité sociale, voté tous les ans, sur le handicap. C'est le fonds handicap, en gros. Et donc, pour expérimenter, si par hasard, à titre tout à fait expérimental, des patients au niveau du COFOR Lille, le centre de formation et rétablissement, c'est quand même très intéressant ce qu'ils ont fait, vraiment très. On va les expertiser et évaluer ce qu'ils ont pu faire à leurs prestations, émettre un très savant rapport de sociologue patenté dans le sens dans la logique institutionnelle, en vue d'éventuellement généraliser que, sur le territoire national, que des patients puissent très éventuellement bénéficier d'un rétablissement, donc d'un aller mieux, d'une baisse de traitement, d'une sortie de maladie, etc. Alors, ce qu'on se dit, ah ben vraiment c'est bien, hein, c'est vraiment chouette. Hein.
Peut-être on peut rappeler à nos auditrices et aux auditeurs qui ne connaissent pas le COFOR que c'est la coformation au rétablissement. Ça a été créé sur le mode des Recovery College au Royaume-Uni, aux USA, au Canada et ailleurs. Et les participants ont rôle d'étudiants pairs.
Oui, 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 c'est ça. Voilà. On rôle d'étudiants pairs et c'est donc fait par et pour des personnes elles-mêmes concernées.
C'est ça.
Avec un appui de professionnels, mais sans que ce soit tutélisé. Donc, cette autonomisation, l'empowerment,
oui.
Ce mot savant que maintenant on a traduit, on a fini par le traduire, par pouvoir d'agir. Bon, mais tout cela, bien sûr, pour rassurer le public, c'est expérimental. Donc, moi, ce que je pense, enfin, puisque je connais quelques personnes du COFOR Lille, c'est, je pense, leur suggérer, est-ce que vous pourriez, en recevant l'équipe de chercheurs sociologues mandatés par la FIRA, les guider à Lille vers un centre zoologique ? En disant, bon, bah écoutez, quelque part, nous, on est une espèce de cobaye, voyons. Est-ce que tout d'abord, avant d'expérimenter ce qu'on fait, de voir si c'est intéressant, aller voir des singes macaques en cagé. Bon, parce que ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi je dis ça ? On en est en France, c'est comme d'habitude, tout ce qui est humanisation des soins, tout ce qui est droit des patients, tout ce qui est autoriser des patients à sortir de la case folie, ne prête plus qu'à une succession de programmes expérimentaux développés les uns après les autres dans des logiques institutionnelles et avec des gens dépendants et tutélisés. Moi, je suis vraiment désolé, ça pose problème.
En fait, il n'y a pas une volonté politique que ça se développe vers une généralisation, en fait.
Alors, si, c'est-à-dire, il y a une volonté politique que ça se développe, mais pas n'importe comment.
Mmh. Oui.
Voilà.
Eh bien, nous, on ne dira pas plus, et on passe... Donc, à l'occasion de la journée du 18 avril, journée européenne des droits en santé, France Asso Santé publie son baromètre annuel des droits des patients. Alors c'est un sondage intitulé « Soigne tes droits ». Donc on peut trouver sur france-asso au pluriel -santé sans accent.org. Alors selon France Asso Santé, la démocratie sanitaire n'aurait besoin que d'un coup de pouce pour se faire appliquer.
Oui. On aurait besoin, et puis surtout, que les patients usagers, enfin les usagers interrogés, sont plus au courant qu'avant de leurs droits. Le sentiment d'être informé sur les différentes dimensions de leur santé dépasse 70% pour chacun des 8 items déclinés. L'espérance avec le système de santé, coût des soins, traitements en lien avec l'un. Les résultats observés sur les outils numériques et les modalités d'accès au dossier médical atteignent également leur plus haut niveau, respectivement 79 et 76%. Mais pour autant, le sujet des droits des malades ne bénéficie pas de la même dynamique. Les répondants connaissent en moyenne 8,3 droits des malades sur les 13 des items. Et par ailleurs, la représentation des usagers du système de santé est très peu connue. 33% des Français savent, d'après l'enquête, qu'il existe des personnes à même de les représenter et de les soutenir en cas de problème dans leur prise en charge. Un pourcentage en progression de 5 points par rapport en 2004, mais qui se maintient à un bas niveau. Le point positif issu de ce baromètre, souligne France Asso Santé, que quand les usagers connaissent leurs droits et en font usage, ils jugent leur application satisfaisante, une preuve s'il en fallait que les droits en santé gagnent à être connus. On sait ce qu'il en est en psychiatrie, où la représentation des usagers dans les instances, quand elle est admise, c'est une pantalonnade. Le plus souvent, c'est une pantalonnade. Et ou bien il y en a qui s'épuisent à essayer de faire des choses utiles, mais qui sont pris en tenaille avec les... Parce que les gens qui représentent les patients en psychiatrie, dans les instances, siègent avec des notables impressionnants, qui ont leur bagage, qui ont leur autorité, leur suffisance, et qui ont une parole d'autorité. Quand le fou, la folle de service, c'est que bon, voilà. Alors, j'avais mis un commentaire et qui a été confirmé par quelqu'un qui a fait de la présentation en santé. j'avais mis « Le nombre et la qualité des interventions de France Asso Santé, ex-6, le collectif interassociatif en santé, 96, sur les droits des patients sont inversement proportionnels aux fonds publics qu'ils reçoivent. France Asso Santé reçoit 10 millions d'euros par an. » Il est à savoir que pour France Asso Santé Île-de-France, la représentation des usagers de la psychiatrie ne peut être valablement assurée que par les parents de patients au titre de l'UNAFAM et certainement pas par des patients ou anciens patients de la psychiatrie. Ceux-ci, nous autres, on est par nature trop atteints et trop infra-humains pour avoir quelques prétentions à faire valoir par nous-mêmes nos intérêts. On est trop débiles et trop cinglés. C'est pas la peine d'insister. Les parents peuvent valablement prendre la parole, les malades, non. Bon, ça c'est le représentant pignonné salarié France Asso Santé Île-de-France. Un de ces quatre, je vais le convier à venir développer son point de vue dans l'une de nos confs pour que vraiment on apprenne quelque chose de neuf. Alors il y a un nommé Pascal Grandjean qui s'y connaît, qui dit de façon critique « Un des éléments essentiels de l'exercice des droits, c'est la facilité d'accès, de contact et d'échange avec les représentants des usagers et patients qui se dévouent, parfois il y en a en effet, pour siéger au sein des différentes instances de concertation, médiation, recours. Le plus souvent, ce travail bénévole s'exerce dans l'ombre et sur la base de sollicitations réduites, tant la démarche de saisine de ces représentants n'est facile que pour des usagers experts dans les us et rouages des institutions en cause. » C'est-à-dire, il faut les connaître. C'est pire encore quand les usagers outrepassent leur droit à réagir pour oser, quelle outrecuidance, cette force de proposition. Un exemple concernant l'ARS d'Île-de-France étant partie prenante d'un collectif citoyen visant la création d'un centre de santé à Morsang-sur-Orge en Essonne, nous avons cherché à contacter les représentants des usagers du système de santé au sein de la communauté de territoire de santé essonienne de l'ARS. Aucune réponse de ces services. Et puis depuis 3 mois au moins, la page web d'accès aux infos sur cette communauté territoriale de santé à partir de l'ARS d'IDF d'Île-de-France renvoie un message d'inexistence. Quel mépris à l'égard de la démocratie sanitaire, quel aveu de l'inutilité de la communauté territoriale en santé. C'est l'équivalent des CPTS, les communautés psychiatriques de territoire développées en santé mentale. Donc ça veut dire que si un collectif citoyen veut créer quelque chose de dynamique, il doit s'adresser à un correspondant à l'ARS, ce correspondant n'existe pas. Bon. Tout va bien. Bon. Alors, d'autre part, il y a les risques sectaires liés en santé, toujours en tête des signalements. Alors, là-dessus, donc, il y a une étude de la Miviludes. Alors, les risques sectaires en santé sont toujours à la tête des signalements. Et donc, j'ai mis quand même en commentaire la secte très puissante des médicamenteurs peut sévir en toute liberté. Combien de victimes ?
Merci André, voilà, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui et nous allons finir, puisque nous avions évoqué les UMD, les unités pour malades difficiles, une vieille chanson de 1973 de Serge Reggiani, Villejuif. Dans cette chanson sont évoquées la Tchécoslovaquie, la Grèce et l'Espagne, car à cette époque, ces pays étaient soumis à des dictatures.
N'écris pas de Grèce, ni de Prague, ni de Madrid. Moi, je vous écris de France, de l'hôpital de Villejuif. Ça va bientôt faire 10 années qu'on me cache dans un coin. Qu'on vient me jeter la pâtée dans ma chambre chaque matin. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire pour être mis à la fourrière des humains.
Est-ce que je fais un pyjama à tourner entre ces murs blancs? Appelle qui, implore quoi, d'où je suis, personne n'entend. Toutes mes peines sont peines perdues, je vis mais ça ne compte plus, puisqu'ils m'ont rayé des vivants. Je vous écris par adresse, ni de Prague, ni de Madrid. De France, de l'hôpital de Villejuif. Ils peuvent me piquer la peau et me sangler à mon lit. J'entends toujours mille marteaux résonner dans mes insomnies. Je vois toujours des foules déferler, des mains et des portes fermées. Je ne trouve plus la sortie. Contre quelle vie me suis-je battu pour me cueillir un matin? Des gens ont dit qu'ils m'avaient vu avec une arme dans la main. L'air et Valère et la terre en morceaux, ils m'ont jeté dans ce ghetto à Villejuif, section Colin. J'ai pourtant dû être un enfant, moi aussi. J'ai dû courir après des chiens, des cerfs-volants, si je pouvais y revenir. Mais je ne sais plus où, dans quelle banlieue, je sèmais les cailloux qui me ramèneraient à ce jardin. N'écris pas de Grèce, ni de Prague, ni de Madrid. Moi, je vous écris de France, de l'hôpital de Villejuif.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Dei paulegus, da cares ne
Bonjour à tous, bienvenue, c'est un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire 89.4 en FM, Paris et la banlieue parisienne, en DAB+, c'est-à-dire Radio Numérique Terrestre,